mécanique du journalisme.
Ben Barka,
un des chefs de l'opposition marocaine enlevé, je vous le rappelle, vendredi dernier à Paris.
Rainbow Warrior,
ayant coulé à la suite de deux explosions sans doute d'origine criminelle.
Clearstream,
une société soupçonnée de dissimuler l'argent de la corruption.
Cahuzac, LuxLeaks, Fillon, Benalla. Certaines enquêtes ont révélé des affaires d'État et déstabilisé le pouvoir.
Cette crise sans précédent, plus au sommet de l'État.
Des hommes politiques ont chuté, des lois ont changé. Des journalistes ont révélé ce qui devait à tout prix être dissimulé.
Le président est en garde vue depuis hier matin.
Comment travaillent ceux qui cherchent ?
À son domicile, il est...
Comment trouvent-ils l'information ? Comment la vérifient-ils ? Comment protègent-ils leurs sources ?
Issue d'un système de vidéoprotection.
Mécanique du journalisme.
Emmanuel Macron en cours jusqu'à 3 ans.
Saison 1,
et 45
l'affaire Cahuzac.
Qui risque aussi d'entraîner des...
Avec Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart.
Par Élise Carlin et Thomas Duterre.
Je m'appelle Fabrice Arfi, je suis né le 4 septembre 1981 à Lyon et je suis journaliste depuis 1999, donc un peu plus d'une vingtaine d'années. J'ai d'abord travaillé une petite dizaine d'années à Lyon, dans toutes sortes de médias différents, des médias locaux, des médias nationaux, pour faire de la pige ou de la correspondance. Et je suis à Mediapart depuis sa création en mars 2008, où j'occupe désormais le poste de co-responsable du service des enquêtes. Et je suis membre de la direction éditoriale du journal.
Premier épisode, de l'affaire Bettencourt à l'affaire Cahuzac.
Son regard fuit les caméras. Visiblement fatigué, Jérôme Cahuzac arrive au tribunal pour écouter son jugement. Il vient d'écoper de 300 000 euros d'amende, 4 ans de prison dont 2 fermes. La fin d'un feuilleton judiciaire pour l'ancien ministre du budget, lui qui pendant plusieurs mois persistait dans le déni.
L'affaire Cahuzac, en réalité, quand on en fait l'archéologie, est une affaire qui est née au moment de l'affaire Bettencourt.
Elle, c'est Liliane Bettencourt. Elle est l'héritière de l'empire des cosmétiques L'Oréal, un groupe industriel fondé par son père qui pèse 15 milliards d'euros, ce qui a fait d'elle la femme la plus riche d'Europe.
À l'été 2010, au moment de la révélation de l'affaire Bettencourt et de ses multiples volets, il y avait un volet, on va dire, fiscal important qui concernait Madame Bettencourt, dont on avait révélé qu'elle disposait d'une douzaine de comptes cachés à l'étranger, c'est-à-dire non déclarés au fisc, alors qu'elle était réputée être la meilleure contribuable de France. C'était vraiment des centaines de millions d'euros qui ont été substitués à la richesse nationale. C'était des comptes à la fois en Suisse, pour l'essentiel, puis aussi un peu à Singapour. Et nous avons découvert que Madame Bettencourt n'était jamais contrôlée par les services fiscaux du ministre du budget, à savoir Éric Woerth. On était face à une histoire fiscale importante, un ministre de droite qui était concerné, et à ce moment-là, il y avait au sein de l'Assemblée nationale, et plus particulièrement à la tête de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui est un endroit très puissant dans la République française, un homme qui était de gauche, qui s'appelle Jérôme Cahuzac. Et moi, par opportunisme journalistique, sachant quelles étaient les prérogatives d'un président de la Commission des finances, à savoir qu'il peut avoir accès à tous les dossiers fiscaux personnels, à l'abri évidemment du secret fiscal, et surtout qu'il avait des pouvoirs d'enquête et d'investigation propres. Il peut enquêter, il peut demander des comptes à Bercy, etc., sur un certain nombre de faits ou d'hypothèses. J'avais contacté Jérôme Cahuzac avec, et je ne m'en cache pas, une arrière-pensée qui était de dire, bah voilà une affaire fiscale qui concerne un ministre de droite, voilà une puissance d'enquête avec un haut député, si on me permet l'expression, de gauche. Peut-être que le deuxième va avoir une forme d'intérêt à aider la presse pour documenter une réalité qu'on était en train de mettre sur la table. Et donc là, on était au début de l'été 2010, et j'ai au téléphone avec moi un Jérôme Cahuzac que je trouve très en arrière de la main, qui ne veut pas nous parler, ce qui est évidemment son droit le plus ultime. Hein. Ce n'est pas un dû de parler aux journalistes. Et quelques jours plus tard, alors que tout son parti s'émeuvait de ce que nous étions en train de découvrir sur quelques ramifications de l'affaire Bettencourt, Jérôme Cahuzac avait été invité un dimanche matin d'une émission un peu club de la presse. Et il avait dit « Il n'y a pas d'affaire Woerth-Bettencourt, Woerth est un honnête homme », qui était une façon de se mouiller très fort dans cette histoire et qui, moi, m'avait, si ce n'est surpris, du moins de manière très fugace, questionné sur « Mais pourquoi diable ce député s'engage-t-il autant pour le ministre dans la tourmente ?»
Je ne crois pas qu'il y ait d'affaire Bettencourt.
Radio J, 20 juin 2010.
Il faut quand même faire attention.
Affaire Bettencourt ou affaire Woerth ?
Il n'y a ni affaire Bettencourt ni affaire Woerth. Pour l'instant, en tout cas, il faut quand même faire attention aux mots qui ne sont pas anodins. Éric Woerth est, je crois, un honnête homme. Avoir été ministre du budget et trésorier de l'UMP était évidemment une demande de Nicolas Sarkozy, mais une demande déraisonnable et qui met Éric Woerth dans une situation, je le répète, intenable.
Le temps passe, on a tant et tant à faire avec l'affaire Bettencourt et plein d'autres histoires à Mediapart, que évidemment assez vite, quand je dis assez vite, c'est peut-être au bout de 24-48 heures, je ne sais pas, une semaine, j'oublie tout ça. Mais c'est quand il devient ministre, 2 ans plus tard.
Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur, chargé du budget.
C'est le ministre de l'argent public. C'est pas rien. Et il arrive à ce poste à un moment de crise que l'on connaît depuis des décennies, de chômage, etc. Et en lisant le journal Le Monde, je découvre que, comme tous les lecteurs, que l'un des premiers actes du ministre Jérôme Cahuzac, c'est, alors que la justice était saisie d'un autre volet concernant M. Woerth, qui était ce qu'on a appelé l'affaire de l'hippodrome de Compiègne. Ça, c'était pas du tout des révélations de Mediapart, c'était des révélations du Canard enchaîné, qui avait raconté comment, ministre du budget, Éric Woerth avait bradé un bien de l'État, à savoir une forêt et un hippodrome à Compiègne, pour qu'en profite une association proche politiquement du camp qui a été celui de M. Woerth. La Cour de justice de la République, qui est le tribunal qui est censé enquêter et éventuellement juger les ministres qui commettraient des délits dans l'exercice de leurs fonctions, avait ouvert une enquête. Et ouvrant une enquête, avait missionné des experts, 3 experts judiciaires, pour essayer de déterminer si, oui ou non, ce bien public avait été bradé en connaissance de cause par le ministre du budget, Éric Woerth. Et ils avaient rendu un rapport corpulent de 150 pages qui disait bah, « oui, oui, ça a été bradé en connaissance de cause contre l'avis même de sa propre administration. Monsieur Woerth a vendu à vil prix cette forêt et l'hippodrome de Compiègne ». Eh bien, à la lecture du Monde, on découvre que, alors que la justice était saisie, l'une des premières diligences à Bercy de Monsieur Cahuzac, c'est de donner à un universitaire ami à lui, qu'il avait déjà fait travailler dans sa mairie de Villeneuve-sur-Lot dans le sud-ouest, pour essayer de déterminer exactement la même chose que les experts judiciaires, si oui ou non l'argent public avait été malmené dans cette histoire par Monsieur Woerth. Et parallèlement, si j'ose dire, à l'enquête judiciaire, cet universitaire ami rend un rapport beaucoup moins corpulent que celui des experts. Je crois qu'il faisait 20 pages, dont seulement 4, 5 ou 6, je ne sais plus de mémoire, portaient précisément sur l'objet de sa saisine et arrivaient à une conclusion parfaitement inverse, à savoir que M. Woerth s'était excellemment bien comporté face à la vente de l'hippodrome et de la forêt de Compiègne. Et Le Monde avait obtenu ce rapport et avait titré « Dans mon souvenir », affaire de Compiègne, Bercy, Blanchy, Éric Woerth. Et là, on doit être en juin ou juillet 2012, donc sous la présidence de François Hollande, je me rappelle ma conversation et l'attitude de Jérôme Cahuzac 2 ans plus tôt, au moment de l'affaire Bettencourt. Et c'est parce que j'assume que dans notre métier, on peut parfois avoir des a priori, voire même l'esprit mal tourné, je me pose la question de... Mais pourquoi diable, à chaque fois que Éric Woerth est en difficulté, Jérôme Cahuzac, soit par la parole, soit par le silence, soit par quasiment la diligence ministérielle, essaye de lui venir en secours? Est-ce qu'il y a un secret, si tant est qu'il existe, à trouver et qui lie ces deux hommes, l'ancien ministre du budget Éric Woerth, de droite, et le nouveau ministre du budget Jérôme Cahuzac, de gauche? Donc je ne sais pas du tout ce que je cherche. Je ne sais pas si mon a priori n'est qu'un a priori, auquel cas il faut le ranger dans le tiroir des a priori, et journalistiquement ça n'a absolument aucune valeur, si ce n'est que ça peut être une étincelle, mais guère plus, ou est-ce qu'il y a vraiment un fil à tirer? Et c'est comme ça que je me lance dans mon enquête qui donnera, des mois plus tard, l'affaire Cahuzac. Je découvre qu'il a beaucoup d'argent, mais qu'il a peut-être un rapport à l'argent particulier. Au moment de devenir maire de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France, il fait des déclarations publiques sur comment il s'est acheté un appartement dans les beaux quartiers à Paris. Je découvre que ce n'est pas tout à fait comme ça que, manifestement, l'acte d'achat, parce que j'avais récupéré l'acte notarié, correspondait pas exactement à ces déclarations. De la même manière, je découvre que Jérôme Cahuzac, qui a eu une carrière professionnelle de chirurgien d'implants capillaires. Ça, c'était le métier de Jérôme Cahuzac avec son épouse. Ils avaient une clinique privée. Et j'allais dire, j'ai découvert, mais en fait, c'était notoriété publique, puisqu'il y avait eu des articles, notamment de mémoire dans la Dépêche du Midi, que Jérôme Cahuzac avait été condamné en 2007 devant le tribunal correctionnel pour avoir rémunéré, non déclaré, une jeune femme qui travaillait dans sa clinique, qui était sans papier et qui, je crois, faisait des travaux d'assistance et de ménage. Et en plus, elle était payée en cash et très en deçà des minima légaux. Monsieur Cahuzac, sitôt l'enquête pénale qui avait été ouverte, a régularisé sa situation, a payé les assédiques, etc., etc. Et n'en demeure pas moins que, d'après la justice, le délit avait été consommé et donc a été poursuivi et condamné pour ça.
Extrait de la Dépêche du Midi, le 10 novembre 2007. De quoi s'agit-il ? D'une affaire de femme de ménage philippine sans papier, employée par Jérôme Cahuzac au noir et payée en liquide de juillet 2003 à novembre 2004 pour 40 heures mensuelles à raison de 250 euros par mois.
Et donc, c'est ça le premier fil. Il y a quelque chose qui se joue autour de l'argent, au-delà de son parcours politique, il a été responsable de ce qu'on appelait à l'époque la pharmacie, c'est-à-dire le médicament et les instruments médicaux au cabinet de Claude Évin, sous le gouvernement de Michel Rocard à la fin des années 80, qu'ensuite il est devenu en fait lobbyiste pour une partie de l'industrie du médicament, alors qu'il s'était fait une image de Torquemada contre les laboratoires pharmaceutiques. Je m'intéresse à un peu plus profondément à ce que peut être le rapport du ministre du budget avec l'argent. Et j'ai accès, évidemment, je ne dirai pas comment, mais à des déclarations fiscales du ministre du budget. Et ce que je découvre comme étant déclaré par M. Cahuzac et son épouse, Patricia, comme le chiffre d'affaires, en tout cas les émoluments tirés de l'activité de leur clinique privée d'implants capillaires, ne semble pas correspondre, je n'ai aucune certitude à ce moment-là, mais à ce que j'avais compris être le chiffre d'affaires et l'activité réelle d'un point de vue économique de la dite clinique. Étant entendu que je m'étais fait un peu expliquer par certains qui connaissaient que les implants capillaires, c'est une activité qui n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Et donc, c'est susceptible d'être générateur de cash, d'espèces, voilà, comme cela arrive dans tout un tas de professions. Et donc, étant confronté à la déclaration fiscale qui, d'après moi, mais ça n'engage que moi, donc ça n'engage personne, ne semble pas correspondre à ce qu'est l'activité réelle de la clinique, le fait que ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale et qu'il peut y avoir donc du cash, si on met côte à côte ces deux hypothèses-là, je me dis, mais en fait, ça se trouve, le ministre du budget, il gruge sa propre administration. Ce qui, en soi, là, devient potentiellement un sujet, évidemment, d'intérêt public pour un journaliste, mais surtout pour les lecteurs et surtout pour les citoyens d'un pays. Et donc se pose très vite la question de quand on a beaucoup de cash, qu'on gruge éventuellement sa propre administration, qui est en l'occurrence l'administration fiscale, se pose la question d'un compte à l'étranger.